Bonsoir, c'est Jean-Marie Marcos pour Radio Axe. Eh bien, ce soir, pour mon invitation au bonheur, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui est très présente sur la ville et depuis longtemps. Et cette personne, elle est en face de moi. Et elle va se présenter. Alors, qui êtes-vous ?
Bonsoir Jean-Marie, je m'appelle Isabelle Amalioteris. Effectivement, je fais vie depuis 25 ans à Sartrouville. Et j'ai eu pas mal d'activités associatives dans le passé. Depuis quelques années, je suis élue au conseil municipal en opposition.
Et si vous deviez parler de vous, comme pour parler de quelqu'un d'autre, pour vous donner envie de vous connaître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui n'a rien à voir avec l'état civil ou votre métier ou votre engagement ? On en parlera tout à l'heure.
C'est une question bien difficile.
Oui.
J'aime être heureuse.
Ah, ça tombe bien. Ce soir, on va parler de bonheur.
Je m'interroge beaucoup. J'aime faire les choses. J'aime avoir des projets. Je suis gourmande. J'aime cuisiner. J'aime réfléchir, lire, être avec mes amis, vivre.
Autant de sources de bonheur. Alors ce soir, justement, on va parler du bonheur sous toutes ses formes. Alors le bonheur, bien sûr, personne ne possède la définition du bonheur. Chacun possède sa définition du bonheur. Alors moi, j'avais envie de savoir justement à quoi ressemble votre bonheur, Isabelle.
Alors c'est plutôt une somme de petits bonheurs sur lesquels j'ouvre les yeux ou que j'attends ou que je constate. C'est pas un grand soir de bonheur. Voilà, c'est plutôt des constats au fil du quotidien, des espérances aussi. Voilà, j'aime bien cette notion de petit bonheur. Je dis souvent, notamment à mes enfants, qu'il ne faut pas bouder ces petits bonheurs et qu'il faut savoir les apprécier. Donc ça peut être en m'arrêtant en passage côté, quelqu'un qui me sourit, ça peut être une jolie lumière, ça peut être un bon moment. C'est surtout la conscience d'être aligné, d'être pour moi au bon moment, au bon endroit, d'être en cohérence.
Ça veut dire une sensibilité particulière à tous ces petits moments-là ?
Oui, oui.
Et cette sensibilité, comment elle se développe ?
En y faisant attention, peut-être.
En savourant chaque moment ?
En essayant, parce qu'on a tous plusieurs vies dans une vie, donc on court et de temps en temps on passe à côté, alors il faut savoir peut-être les engranger et puis revenir dessus après.
Plusieurs vies dans une vie, j'aime bien cette approche. Moi je parle souvent de plusieurs rôles en fait, nous tenons plusieurs rôles. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas des rôles qui ne seraient pas nous-mêmes, hein. Ce sont des rôles de composition quelquefois, mais surtout des rôles où on est vrai, mais à chaque fois sous une forme différente. Je ne suis pas le même lorsque je suis face à des professionnels ou face à des étudiants. Je ne suis pas le même si je suis dans ma famille et je ne suis pas le même avec mon épouse à différents moments de la journée ou de la vie. Et pourtant, c'est toujours moi. Donc, c'est intéressant cette mosaïque de nous-mêmes et sous tous ces petits nous. Et justement, vous parliez de vos enfants. Les enfants, c'est une source de bonheur aussi.
Oui. Oui, de grand bonheur. Oui.
Oh, quel silence. C'est le silence, et oui. Et justement, est-ce que, je voulais savoir, la notion de bonheur, c'est une quête récente chez vous, ou est-ce que c'est un état d'esprit qui est là depuis longtemps ?
C'est pas une quête. C'est certainement quelque chose qui a grandi avec le temps, que j'ai peut-être apprivoisé que j'ai eu conscience de cultiver davantage avec l'âge. J'étais peut-être plus, quand j'étais jeune, dans l'instant présent, mais dans les moments importants, dans les moments que j'appréciais, en me disant, j'avais une conscience très forte du fait que ce moment était déjà en train de se terminer au moment où je constatais à quel point c'était sympa d'y être. Et j'étais très consciente de ça. Et avec l'âge, j'ai réussi à m'en détacher. Et c'est certainement une condition pour encore plus savourer le bonheur et se détacher de ce qui peut un peu engluer.
Le fait de se projeter, par exemple, fait qu'on ne vit pas complètement l'instant présent.
Voilà, je suis beaucoup plus capable aujourd'hui de l'apprécier.
Est-ce que, du coup, la maturité apporte une autre forme de bonheur ?
On est peut-être, paradoxalement, moins... C'est une chanson qui disait ça, les regretteurs du temps d'hier.
Oui. Toutes les études démontrent qu'en fait, les personnes les plus heureuses sont des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, il y a encore de la marge pour y arriver.
Oui, mais hein, ça se rapproche.
Mais en tout cas, donc, contrairement à ce que l'on peut penser, même si l'âge est présent, même si la santé est moins bonne que 20 ou 40 ans, en effet, il y a une volonté de savourer, de prendre conscience de ce qui se passe réellement, de pas être dans la fin de la projection, et donc d'être vraiment là et d'être dans l'ici et dans le maintenant qui donne un peu plus de goût à chaque moment. Donc voilà, c'était intéressant de converser autour de la maturité. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de bonheur par rapport aux enfants. Je suis souvent avec des enfants. Ici, à cette place, il y a de temps en temps des enfants. Le hasard a fait que ça avait commencé avec le mien, mais du coup, d'autres enfants veulent aussi participer à l'émission. C'est très intéressant de les entendre. Et j'utilise souvent cette image de notre enfant intérieur, comment on va chercher notre enfant intérieur, qui est plein d'énergie, qui est plein de volonté. Votre enfant intérieur, il est où, là, en ce moment ?
Il est toujours là.
Il est toujours présent.
Oui.
Il est prêt à bondir, prêt à rire, prêt à s'amuser.
Ah oui, à rire, je ris très facilement. Je pense qu'il est toujours là en autodérision aussi. Et je pense qu'il est... Il est toujours là. Vous parlez d'engagement. C'est parce que j'ai été la petite fille que j'ai été que je suis engagée, par exemple. Et ça, c'est une conscience très forte qui m'habite. Et c'est amusant parce que hier, j'entendais un mot qui m'a fait penser à une poésie que j'ai apprise quand j'étais petite. Je pense que tout le monde a appris des poésies de Claude Roy. Et donc, c'était une poésie. J'ai toujours, sur ma table de chevet, toujours des tas de livres que j'ai envie de lire. Alors, je les lis au fur et à mesure, plus ou moins vite, selon les périodes. Et j'ai toujours, en revanche, un recueil de poésie qui vient très clairement de l'enfance. Enfin, j'ai toujours un recueil qui change. Hein. Je découvre...
Ça, c'est pas le même depuis l'enfance.
Non.
Livre de poésie.
Non, pas du tout. Je suis pas du tout fétichiste sur ces questions. Il y en a que j'aime
relire. Ça pourrait être le cas. Hein.
Mais non, il change régulièrement.
La poésie, c'est une source de bonheur, donc.
Ah oui. D'interrogation aussi. J'aime beaucoup les haïkus. Dans tout ce qu'ils peuvent révéler, dans tout ce qu'ils... ils induisent comme questionnement, et puis juste, c'est beau.
Alors moi, j'ai un souvenir, quand j'entends parler de haïku, d'un des premiers livres de haïku que j'avais lu, qui s'appelait « Fourmis sans ombre », et que je conseille à tout le monde. C'est vraiment un très très joli livre. Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés aussi à la librairie, me semble-t-il.
Ah oui.
Oui, et nous fréquentons les mêmes lieux. Et j'ai pas de difficulté à y aller dans la librairie, j'ai beaucoup de difficultés à en sortir, par contre. Donc aujourd'hui, les livres sont importants aussi dans
toujours.
Votre vie.
Oui. Ils ont toujours été. Toujours. Je lisais énormément quand j'étais... dès que j'ai su lire, ça a été une évasion, une découverte extraordinaire. Et ça allait toujours rester. Enfin, c'est assez terrible de me dire que je vais m'endormir sans avoir lu un peu. Enfin, c'est une tristesse terrible.
J'appelle ça l'hygiène mentale, en fait, aussi, de lire un peu ou beaucoup avant de s'endormir. Je pense que ça donne une tonalité particulière à notre sommeil, ça donne une couleur aussi au sommeil. Et je pense que si je dors bien, c'est aussi pour une de ces raisons. Donc les livres, oui. Alors les livres, des fois, c'est un peu agaçant aussi, les livres, non ?
Oui, alors dernièrement, dans les deux dernières années, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Je n'ai pas fini un livre, ça ne m'était jamais arrivé. Même des livres que je les ai toujours finis, celui-ci, je n'ai pas réussi. Je me suis dit que j'allais pas poursuivre. C'est un livre que c'est un prix Nobel que je voulais découvrir. Pas du tout.
Il n'a pas fait écho.
Non.
Et c'est agaçant parce que normalement un livre ça se termine, c'est ça.
Complètement.
Bah oui. Alors, il y a des livres, en effet, on n'est pas prêt peut-être à les lire, peut-être ils sont pas faits pour nous, tout simplement. Moi, ça m'évoque Ulysse de James Joyce, où tout le monde disait, voilà, ce livre, c'est un monument, il faut absolument le lire, etc. Je m'y suis pris à plusieurs reprises, je crois que j'ai compris que ce livre n'était pas fait pour moi, en fait, je ne suis jamais vraiment arrivé à rentrer dedans. Mais par contre, voilà, il y a d'autres livres qu'on lit à une certaine époque de sa vie. Je pense que les livres qu'on fait lire aux très jeunes enfants, enfin aux ados, ils sont pas toujours prêts encore. Je pense qu'ils n'ont pas encore. Il faut avoir vécu. Il faut avoir un peu d'épaisseur, un peu de rupture, de difficulté, de rencontre pour à un moment donné comprendre. Je pense à Stendhal, par exemple. Voilà. Je pense que Stendhal, il faut avoir vécu un petit peu. Et quand on lit Stendhal à 17 ans, je suis pas persuadé qu'on soit vraiment prêt encore à tout absorber, tout comprendre de ce qu'ils là où ils veulent nous emmener, en fait. Bien. Et aujourd'hui, donc j'ai aussi une femme politique. On va pas parler bien sûr de politique, surtout qu'on est dans une période préélectorale. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est femme et politique. C'est souvent présenté sous le côté sombre, en disant c'est difficile, c'est plus difficile. Il y a le plafond de verre, etc. Et je me dis, mais finalement, est-ce que être femme et politique, c'est aussi du bonheur?
Bah, c'est du bonheur parce que c'est un engagement qu'on choisit, en plus. Enfin, dans mon cas, je suis pas du tout indemnisée pour quoi que ce soit, donc c'est un pur engagement bénévole. Et donc, si on n'est pas heureux et en alignement, je reviens à cette notion, quand on s'engage de manière bénévole, c'est qu'il y a un gros sujet. Donc, oui, ça contribue à un équilibre. Et puis, je dis souvent que je trouve que la République m'a beaucoup apporté, et qu'à un moment donné, c'est ma manière à moi de rendre, de partager, d'essayer d'apporter ma petite pierre dans une espèce de transmission avec ceux qui ont apporté la leur et qui m'ont permis de découvrir des choses qui m'étaient culturellement inaccessibles quand j'étais petite, et puis qui ont permis de faire les études que j'ai faites, de devenir celle que je suis. Enfin, voilà, un parcours assez classique. Et c'est du bonheur de pouvoir partager, essayer de transmettre et se sentir utile.
Mmh. Ça veut dire aussi qu'il y a cette gratitude vis-à-vis de tous ceux qui vous ont précédé aussi, qui ont ouvert le chemin, qui se sont battus, et ceux qui ont construit ce qu'est aujourd'hui la République.
Mmh, bien sûr. Alors c'est peut-être un peu accentué quand on est une femme, parce qu'il y a moins de femmes en politique. Et c'est vrai que, mais en politique comme dans d'autres milieux, on a droit à son lot de réflexions désagréables, un peu sexistes, des trucs un peu ridicules, dont on n'a même pas conscience ceux qui les prononcent.
Mmh. Voilà. Par contre, la société change sur ce sujet. Est-ce que ça, vous l'avez perçu?
Oui. Alors, il y a quand même un gros décalage entre l'espoir qu'on a que ça change pour nos filles, par exemple, à tous, ou l'impression qu'on en a, et puis le fait de se faire rattraper par, des réflexions qui induisent une manière de voir les choses qui ouvertement fait pas la place aux femmes comme étant une part de l'humanité comme l'autre. Mmh. Ah oui, ça c'est assez fréquent.
Et quand vous voyez la composition du gouvernement finlandais, par exemple, ça vous donne de l'espoir?
Oui, mais de manière générale, j'ai beaucoup d'espoir, heureusement. Oui, mais c'est y a quand même des choses qui sont encore à désenclencher.
Il y a encore du chemin, mais de se dire qu'il y a encore du chemin, c'est une chose. De savoir si on est déjà sur le bon chemin, c'est aussi autre chose.
Oui. On est sur le bon chemin. Je citais cet exemple l'autre jour. Professionnellement, il y a 3 ans, donc c'est récent, monsieur qui m'appelait monsieur, parce que je fais un métier d'homme. Alors, je ne pense pas faire un métier d'homme. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, métier d'homme. Mais pour lui, je faisais un métier d'homme, donc il m'appelait monsieur, avec le nom qu'il voulait coller derrière. Donc, ça s'est pas très, très bien passé. Mais c'était il y a 3 ans, c'est récent.
Oui, donc le chemin est encore long.
C'est ça.
C'est clair. Okay. Donc, un chemin qui sera pavé de pierres, qui sera pavé peut-être de nuages de temps en temps, un peu de pluie. Et puis, quand il y a du nuage et de la pluie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un arc-en-ciel. Ça, c'est la transition pour le titre de la musique du bonheur que vous avez choisi et que je vais laisser découvrir avant qu'on en parle à nos auditeurs. Donc voilà, je laisse la place. par la douce voix de Israël, surnommé Iz, de son vrai nom Kamakawi Wole. Donc ce chanteur qui vient des Antipodes et qui nous berce avec cette bonne vieille chanson qui vient du Magicien d'Oz, si je m'en souviens bien.
Alors, c'est en fait, je n'ai pas trop réfléchi quand on m'a demandé une musique de bonheur, celle qui m'est venue spontanément. Donc, tout de suite, je l'ai transmise avant de me mettre à réfléchir à d'autres choses. Cette version-là est en fait une combinaison de cette musique du Magicien d'Oz qui avait été chantée par Judy Garland et d'une autre chanson qui est What a Wonderful World, qui parle un peu d'autre chose, mais qui parle aussi du rêve, de l'espoir, des choses simples, regarder une fleur, regarder une plante, regarder le jour qui se lève. Et donc c'est un mélange des deux, cette version-là précise, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres versions.
D'accord, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui lui donnait une dimension supplémentaire. Oui. D'accord, donc...
Après, il y a la voix incroyable, cet hawaïen, son instrument...
Ouais, cet univers.
Voilà, enfin, Le Touche, c'est une chanson qui est belle, je trouve très, très apaisante, qui invite au songe, au rêve, à la réflexion. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup.
Petite pointe de nostalgie, peut-être, dans cette chanson.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y a une pointe de nostalgie. Après, c'est aussi une chanson qui a eu une histoire militante, puisqu'elle a été reprise par les soldats américains au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont venus en Europe pour se rappeler la patrie. Mmh. Et puis, c'est aussi une chanson qui a été un étendard dans les années 70, avec toute la symbolique de l'arc-en-ciel.
Bien sûr. Petite question où on revient peut-être sur l'enfance, peut-être sur les moments les plus heureux de votre enfance. C'était quoi?
Ah.
Silence. Réflexion.
J'ai une image qui me vient tout de suite. J'ai grandi dans un quartier qui ressemble à celui des Indes. Une cité, c'était sur un plateau, et donc dans des grands immeubles avec des espèces de halles. En fait, il y avait une avancée des immeubles au pied desquels il y avait des commerces, mais cette avancée, il y avait des grands pavés, et c'était vraiment très très large, et on faisait tout le tour. C'était d'énormes cités, d'énormes résidences, on faisait tout le tour comme ça. Et on était une bande de gamins à faire du patin à roulettes, les patins en alu avec les courroies rouges ou marrons. Et c'était des moments de grand, grand bonheur. Voilà, j'ai un souvenir très joyeux de ces bandes d'enfants.
Une volée de gamins qui faisait le tour de la cité en patin à roulettes et qui s'inventait un monde à ce moment-là,
ouais,
peut-être.
Ouais, c'était assez idéal d'ailleurs pour cette pratique.
Ça fait penser au Tour de Sartrouville en roller, quand on voit chaque année les enfants qui pratiquent de toutes les écoles avec les t-shirts de couleur. Moi, à chaque fois, c'est quelque chose qui me transporte, qui me fait du bien. Ça fait plaisir de les voir. Petite question, peut-être à l'envers maintenant. Quelle question vous souhaiteriez me poser? Puisque, sachant qu'on allait parler du bonheur, est-ce que vous avez réfléchi à une question à me poser?
Comment êtes-vous devenu bonheurologue?
Ah, comment suis-je devenu bonheurologue? En quelques mots, je pense que depuis tout petit, je me suis intéressé à l'autre. Au plus loin que je me souvienne, voilà, j'aimais beaucoup savoir comment les gens vivaient, comment ils étaient, etc. Je m'étais abonné à un magazine sur les peuples du monde quand j'avais 12-13 ans, donc c'était vraiment un peu décalé par rapport aux autres enfants de mon âge, mais vraiment c'est quelque chose qui me plaisait, et je pense que j'aurais aimé être ethnologue, voilà. Psychologue, ça ne me venait pas à l'esprit, coach, ça n'existait pas. Et voilà, c'était quelque chose, voilà, j'aurais aimé voilà, partir loin, étudier. Je me souviens, j'avais un rêve d'enfant qui était d'aller vivre pendant plusieurs mois avec les Yanomami. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une très belle exposition de photos d'une grande photographe allemande qui a passé beaucoup de temps avec eux. Donc ce peuple qui vit en Amazonie et qui vit encore comme on vivait à l'époque de l'âge de pierre, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Bon, mon milieu socio-culturel ne me permettait pas ni ces grands voyages, ni non plus de faire de ces longues études. Donc, j'ai dû assez rapidement apprendre à avoir un vrai métier, entre guillemets. Donc, j'ai fait des études plus techniques, etc. Mais j'avais toujours en moi ce goût pour l'autre. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de faire de la formation, j'ai trouvé tout de suite le moyen de pouvoir à la fois m'intéresser à l'autre avec un prétexte qui était peut-être technique, mais qui était une façon de comprendre le besoin de l'autre et d'essayer d'y répondre à ma façon pour l'aider à être plus performant dans son travail. C'était le premier cas. Et l'entreprise dans laquelle j'étais m'a fait énormément confiance parce que on me confiait aussi de m'intéresser à mes propres collègues pour les aider dans les moments difficiles de gros changements dans l'entreprise, quand il fallait changer tout le système d'information par exemple, où tout le monde était chamboulé dans son travail. Donc on m'a demandé de les aider justement à pouvoir mieux vivre ces moments-là, mieux communiquer entre eux, et ça m'a vraiment intéressé, moi qui venais pas du tout du monde ni des RH ni de la psychologie. Donc quand j'ai dû changer de métier, il y a 10 ans exactement, j'ai décidé à ce moment-là de me former au coaching. Le but étant vraiment d'aller jusqu'au bout de cette démarche, de m'intéresser aux autres et de les aider justement à réussir ce qu'ils avaient envie de réussir, donc de m'intéresser à ce qui les rendait pas uniquement performants ou efficaces. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment faire en sorte que les personnes soient vraiment épanouies, qu'elles soient bien dans leur vie, qu'elles soient heureuses tout simplement. Et au fur et à mesure, voilà, cette notion de bonheur est venue. Naturellement, c'était le mot qui venait parachever finalement tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'aime bien cette notion de dire que dans notre vie, on trace des petits points. Et puis à un moment donné, on prend un peu de recul et puis on relit tous les points et on se dit mais voilà, mais en fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais c'était pour ça. Donc j'ai vraiment le sentiment à un moment donné que tout me portait à exercer ce métier, en tout cas cette proprement c'est plus que métier, c'est cet art de vivre en fait qui consiste à chaque fois que je le peux aider les personnes à se sentir beaucoup plus heureuses. Non seulement on parle de bien-être, on parle de satisfaction, mais moi au-delà de ça, c'est vraiment de trouver chez chacun ces fameuses pépites. J'ai souvent cette image qui me vient en disant que nous marchons tous sur une mine d'or, mais on ne le sait pas. Et moi, je vais juste aider à creuser dans certains endroits, mais c'est pas moi, c'est juste moi. Je donne juste une aide. Les pépites appartiennent à la personne, et quand quelqu'un trouve sa propre pépite, elle est heureuse, et ça, moi. J'ai la meilleure des satisfactions possibles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, naturellement, le mot de bonheur est venu. Et ensuite, bon, là, mes clients s'amusaient à m'appeler le bonheurologue. Donc, je dis pourquoi pas. Donc, continuons dans ce sens. Et je vous ai posé quelques petites questions autour du bonheur, autour de l'engagement, autour de la peut-être de la famille, de l'enfance, etc. Et y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose ?
Celle que vous n'avez pas osé me poser.
Alors moi j'ose tout. J'ose tout, donc qu'est-ce qui me viendrait en tête, question que je poserais, voilà, j'avoue je ne sais pas, parce que en tant que coach, on doit surtout ne pas se mettre de barrières, on ne doit pas s'auto-censurer, et le coaching c'est un métier récent, mais ça vient d'une très très longue tradition, parce que chez les Grecs, on pratiquait déjà la maïeutique, qui était donc l'art de, on dirait aujourd'hui, de tirer les vers du nez par le questionnement, mais c'est surtout l'art de faire accoucher par le questionnement. Donc il y a cette capacité à confronter, mettre éventuellement quelqu'un face à ses contradictions par le questionnement, et donc poser des questions que la personne n'a jamais entendues ou n'oserait pas se poser aussi. Je n'ai pas de barrière particulière, donc je ne vois pas ce que je m'empêcherais de vous poser comme question. Alors, on va peut-être faire autrement, pour le coup, c'est une question un peu surprise, et j'utilise pour cela un petit outil. Ce jeu, il s'appelle Antisava, il a été réalisé par la Ligue des Optimistes de France. Et donc je vais vous demander de tirer au hasard
une question,
de piocher une carte, voilà, donc il y a des cartes un peu plus légères, un peu plus moyennes et puis un peu plus profondes, et c'est le hasard qui va vous poser une question qui a à voir certainement avec le bonheur. Alors je vous laisse nous la faire découvrir, je la découvre aussi. Hein.
Donne-moi une raison pour laquelle ta vie est mieux aujourd'hui qu'avant. Eh bien, d'abord, c'est vrai.
Ah oui, ça part d'un a priori, la vie est mieux aujourd'hui qu'avant. Donc,
je dois dire que j'ai été plus heureuse, je me sentais mieux et plus heureuse à 40 ans qu'à 30 ans. Et je peux dire la même chose à 50 ans, puisque j'ai 50 ans aujourd'hui. Je me sens, il y a beaucoup de choses qu'on a réglées ou qu'on voulait faire et qu'on a faites. On a plus de distance, je trouve. C'est une question d'âge, hein, certainement, tout ça. Et du coup, il y a une forme de décontraction qui s'installe, de recentrage sur des choses importantes. Et je pense que c'est plus simple. Voilà, les choses sont plus sain, plus aligné. Je reviens à cette notion.
C'est le mot que je viens d'écrire pour rebondir dessus. Ouais, parce que c'est pas la première fois depuis le début de cette conversation que vous parlez justement d'alignement, de recentrage. On a un terme, nous, en coaching, qu'on appelle donc la congruence.
Le fait d'être en
congruence.
Tout à fait.
C'est souvent un mot que les clients découvrent, que les personnes découvrent. Et je trouve que c'est un très joli mot. Alors, il est pas très agréable à dire, il est pas joli en lui-même, mais ce qu'il représente est très beau. Je trouve que peut-être c'est ça. Et que ce qu'on appelle aussi l'individuation, le moment où on est vraiment apaisé avec soi-même, on a pris conscience de notre fragilité et donc on est encore plus en attente de ce que la vie nous offre et peut-être plus encore dans une forme de compréhension. On cherche à comprendre ce qui se passe et on cherche surtout à savourer tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrive. Et le fait d'être congruent, c'est le fait de pouvoir aligner ses valeurs avec ses pensées. C'est pas si facile. D'aligner ensuite ses pensées avec ses paroles, ça veut dire qu'on va vraiment être complètement cohérent en interne, et ses paroles ensuite avec ses actes. Donc ça reste pas uniquement dans la réflexion, il y a pas une dimension intellectuelle dans la congruence, c'est vraiment une dimension de l'action en fait. Et aujourd'hui, le fait d'être congruent, d'être aligné, d'être en phase avec soi-même, ça veut dire qu'on va peut-être laisser tomber un certain nombre d'oripeaux. On va essayer de plus se laisser porter par les sirènes du paraître et de ce que les autres attendent de nous. Et on dit, je suis moi-même. Et c'est pas prenez-moi comme je suis, je changerai pas. Au contraire, c'est je suis comme ça et je suis en accord avec moi. Et si entre nous ça passe, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et on a cette décontraction, cet apaisement, je trouve, qu'on a vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres, qui donne ce petit surplus, peut-être, de bonheur aussi, et qui fait que on savoure encore, on a peut-être 10 000 raisons d'avoir une vie meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Ça vous parle ?
Oui, tout à fait.
Alors, on arrive bientôt à la fin de cet échange, et traditionnellement, je termine avec un petit conte. Un conte de sagesse, je les aime beaucoup. Alors je les trouve dans les traditions, quelquefois, mais je les trouve aussi dans certains livres. Et moi, j'ai trouvé un conte qui est très joli et qui s'appelle Le Canoun de Meriem. Et ce conte, il vient d'un livre de Paul André qui s'appelle Conte des sages du désert. Le désert, ça vous parle ?
Ah oui, à plus d'un titre.
Oui, c'est-à-dire ?
Ah ah. Le désert, à la fois l'endroit, je veux dire, les zones désertiques, le lieu, le sable, le vent, le soleil, et puis toute la notion spirituelle de désert aussi, toute la symbolique du désert.
Alors je pense que ce conte va vous plaire. Que sommes-nous venus faire sur cette terre ? Être sage et comme tout le monde ou faire chanter les étoiles? Quand le vent du soir est propice, les femmes du village déposent sur leur seuil des braseros qu'on nomme canoun pour qu'ils puissent s'allumer, s'aviver. Une fois les braises bien rougies par le vent, elles les rentrent pour cuisiner. Meriem était mal vue par ses voisines car elle laissait trop longtemps son canoun sur le seuil. Le feu devenait trop rouge, lançait des étincelles qui volaient dans la rue, bien après la tombée de la nuit, et les voisines disaient « Meriem n'est pas bonne ménagère, Meriem gaspille son charbon de bois, si j'étais le mari de Meriem, je... » Meriem se souciait peu de tous ses commérages. Elle reprenait son canoun pour y griller ce qu'elle voulait comme elle le voulait. Et son homme, ses enfants, en étaient très contents. Un soir que le canoun était demeuré sur le seuil, encore plus tard que d'habitude, une vieille médisante lui dit « Tu devrais avoir honte, tes braises sont presque consumées et tu n'as pas encore fait le manger. » « Cela est vrai, mais regarde la nuit, mon canoun a allumé les étoiles. » Petite réflexion sur ce conte ?
Non, pas immédiatement.
Donc le silence après le conte, c'est encore du conte. Eh bien, on va clore cette émission. Donc, c'était Invitation au bonheur sur Radio Axe. Je vais vous laisser avec un titre de ma propre playlist du bonheur. Moi, je vous ai choisi ce soir une chanson qui est aussi qui parle de bonheur, mais qui parle aussi, on pourrait presque dire du bonheur, du son du bonheur qu'il laisse lorsqu'il part. En fait, elle s'appelle I Could Be Happy et c'est de Snow Patrol. Donc, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle invitation au bonheur et avec, de nouveau, un nouvel invité surprise. Mais d'ici là, soyez heureux.
You could be happy and I won't know. But you weren't happy the day I watched you go. And all the things that I wish I had not said, I played in loops till it's madness in my head. Is it too late to remind you how we were? And not our last days of silent screaming blur. Most of what I remember makes me sure I should have stopped you from walking out the door. You could be happy, I hope you are. You made me happier than I'd been by far. Somehow everything I own smells of you. And for the tiniest moment, it's all not true. Do the things that you always wanted to. Without me there to hold you back, don't think, just do. More than anything, I want to see you, girl. Take a glorious bite out of the hole.